Eugène Dabi, un mort tout neuf, en exergue. Ils vont, ils viennent, ils trottent, ils dansent, de mort nulle nouvelle. Tout cela est beau, mais aussi, quand elle arrive, ou à eux, ou à leurs femmes, enfants et amis, les surprenant en dessous d'où a découvert. Quel tourment, quel cri, quelle rage et quel désespoir les accable. Montaigne les essais. 2 janvier. Le médecin n'est resté que quelques minutes dans la chambre. Il a regagné vivement sa voiture où Paula s'est jetée derrière lui tête nue. Et depuis, elle n'a pas fait un geste, elle n'a pas dit un mot. Courbée, les bras inertes, elle se laisse glisser sur son siège, secouée par des cahots. Soudain, le médecin grogne, alors elle colle son front contre la vitre. La rue est barrée. « Non, jamais ils n'arriveront. Rue de Belleville, tout en haut. » C'est la première fois qu'elle vient dans ce quartier, et à une heure si matinale. Lorsqu'ils ont quitté Vaugirard, les rues étaient désertes, maintenant elles s'animent. Une lueur bleuâtre y traîne. Des cafés sont ouverts, des hommes en sortent, y pénètrent. Et tous, ils commencent leur journée. Ils continuent à vivre. Paula regarde pour oublier. Impossible. Elle se renverse en sanglotant et ne voit plus que le toit de la voiture noire. Quel numéro ? Paula ouvre sa main dans laquelle elle froissait un papier. Elle le déplie, le fixe des yeux, tandis que la lumière s'étale et que montent des bruits confus. Et encore une fois, elle le lit d'une voix éteinte. En cas d'accident, prévenir ma sœur, Lucienne Diollet, barre du télégraphe 263. Après le coup de feu de 7 heures, Ferdinand Diollet descend faire sa cave et Lucienne nettoie la boutique. Hier, jour de fête, ils ont eu beaucoup de clients. Faudra que la Julie lave à grand eau, le sol carrelé. Lucienne le balaie pour l'instant. Elle s'arrête parfois. Elle pense qu'ils n'ont vu ni le gros Édouard, ni Albert. Elle se répète que depuis 1820, c'est le premier jour de l'an qu'ils ne passent pas en famille. Elle a vu son plus jeune frère Victor et leur vieux cousin Berbarou, avec lesquels ils ont déjeuné, sans entrain. Lucienne pousse sur le trottoir les ordures et d'un dernier coup de balai les jette au ruisseau. Un autobus s'approche en ronflant. Sur le plat, à la hauteur du bar du télégraphe, crac, le conducteur change de vitesse. Lucienne ne bouge pas. Il y a 8 ans qu'ils tiennent ce bar, 8 ans qu'ils ont filé. Elle l'aime, leur coin. Presque en face de leur maison, c'est la rue du Télégraphe, la plus haute de Paris, dit-on, avec le vieux cimetière et les réservoirs de la ville. Elle est large comme une place provinciale, et 2 fois la semaine s'y installe le marché. La rue de Belleville continue jusqu'à la porte des Lilas, où l'on construit des immeubles énormes. Justement, en route pour ce chantier, voici des camions chargés de briques. Alors, elle tire, elle teinte les bouteilles au bar du télégraphe. Et Lucienne dit, comme souvent à ses clients, « Et quand je pense que lorsque mes frères et moi on était gosses, par ici on vadrouillait lors des terrains vagues. » Un taxi lance des coups de trompe, un brocanteur glapit, un homme marchant sifflant. Et du bas de Belleville monte le vacarme quotidien. Une boîte à lait à la main, un gamin sort de chez le chrémier. C'est le fils de la concierge du 263. Il court. « Hé !» crie Lucienne. « Gare la bûche !» Puis elle rentre et gagne l'arrière-boutique où elle prend un seau. La voiture s'arrête. Paola crie « Déjà !» et elle se penche. Sur les vitres ternies d'une devanture, elle déchiffre un nom en lettres blanches. Fernand Dieuret. Oui, oui, c'est là. Son angoisse grandit. Il va falloir qu'elle descende de voiture, qu'elle parle. Elle leur raconte quoi à ces gens? Expliquer qu'elle est Albert. Durant le trajet, quand elle retrouverait sa volonté, elle a bien essayé de réfléchir. Elle porte la main à son front, sa peau est moite. « Je suis pressé, » dit le médecin. « Vous leur parlerez, vous ?» Paula, vraiment, à peine si elle a la force de descendre, traverser ce couloir, lever les yeux. Et c'est là, le bar du télégraphe, que son Albert, dans un jour heureux, lui a décrit. Le médecin en pousse la porte. Elle le suit, elle entre dans une salle obscure où quelque chose étincelle. C'est le zinc du comptoir. Elle entend demander « Qu'est-ce que c'est ?» et lui semble entendre une voix connue. Ah, que subitement, il est devant elle, Albert. « Vous êtes la sœur de M. Albert Singer ?»« Je suis sa sœur, oui, pourquoi ?» Paula agite les bras en criant « Docteur, taisez-vous » Mais il poursuit « Oh, j'ai une pénible nouvelle à vous apprendre. Votre frère est malade. » Alors elle repousse et lance d'une haleine « Il est mort !» Et il lui paraît que la vie l'a quitté, elle aussi. Une forme humaine chancelle tombe dans les bras du médecin en gémissant. Paula s'approche de Lucienne Dieulet. Sur le visage crispé, elle reconnaît sa propre douleur. Elle tend les mains comme à une amie. « Mon frère !» balbutie Lucienne. « Où est mon frère ?» « Il est mort chez madame, » explique le médecin. « Oui, » reprend doucement Paula, « chez moi, dans mon lit. » Et elle veut essuyer ses pauvres yeux baignés de larmes. Mais Lucienne Dieulet se précipite au comptoir et s'y appuie. « Ferdinand, monte !» hurle-t-elle. « Ferdinand !» Un homme sort d'une trappe. Elle lui annonce de cette voix inhumaine « Albert est mort !» Puis sourdement, elle répète ces mots. C'est comme une plainte encore plus déchirante que ses cris. L'homme a blêmi, bégayé, et son regard se fixe sur Paola. Il s'avance, ouvre la bouche, et Paola, qui voudrait fuir, doit répondre. Chaque mot qui lui arrache, elle le sent vivre dans son cœur, lui déchirer la gorge, ramener sous ses yeux une image épouvantable. Cet homme n'en finit plus de lui poser des questions, durement. Il veut tout savoir, tout. Et derrière lui se tient sa femme, les yeux luisants. Paola les regarde avec crainte. Elle ne se souvient plus. Ah si, si, ses souvenirs se brouillent. Cependant, il y en a un qui s'isole, impitoyable, celui-là. « Je me suis tournée, » dit-elle. « Je l'ai touché, Albert, et je lui ai demandé, « Tu dors encore ?» J'ai allongé mes jambes, alors j'ai ressenti qu'il avait les pieds glacés. « Et après ?» souffle Lucienne. « Après ?» Je l'ai secoué un peu, il n'a pas bougé. Et elle reprend avec effroi. « Mon Dieu, il est mort !» que j'ai crié. Gaston Dieulet a mis le seau à ordures devant la porte, puis il s'est recouché. Seul. Sa femme passe les jours de fête en province, chez les parents. Il n'a pas à refermer les yeux. Une chaleur heureuse le pénètre. Il s'étire, bâille, rêvasse, encore plein de sommeil. 8 heures. Et il écoute paresseusement carillonner la pendule, puis le ronflement d'un moteur. Mais soudain ce bruit cesse. L'auto s'est arrêtée devant le pavillon. Germaine ? Un coup de sonnette l'a fait sauter hors du lit. Oh oui, c'est sa femme. Un deuxième coup plus violent. Assez ! Il entend tourner l'auto au fond de la rue. Voilà ! S'écrie-t-il en saisissant sa clé. Il ouvre et un mouvement de recul. Contre le battant de la porte s'appuie son père en tenue de travail. Son père, le visage pas rasé, tout défait, et qui répète d'une voix méconnaissable « Il nous est arrivé un malheur !» Gaston, une pensée terrible le traverse. « Quoi ? Dis-le ! Vite ! Albert est mort ce matin. Albert ? Oui, reprend Ferdinand. Habille-toi et cours au bar du télégraphe. La mère est comme folle. Moi, je vais chez madame. » Dans un coin du taxi, Gaston aperçoit une femme. « Faudra aussi que je passe à la mairie du 14e, faire la déclaration. À vous, Girard, qu'il est. » Le taxi roule et quitte le lotissement. Gaston referme la porte. « Ma bonne vie, pense-t-il, c'est Albert qui est mort, mon oncle. » Il regagne pesamment sa chambre. Maintenant les larmes lui viennent aux yeux, le brûlent, coulent sur ses joues, et il les essuie en soupirant. « Albert, mais est-ce possible qu'il ne vive plus ? Mais que lui est-il arrivé ? Où ?»« Ah ! Il l'entend. » Depuis un an, il ne se voyait peu. Quand l'a-t-il vu ? En juillet, oui, alors qu'Albert se préparait à partir pour la Côte d'Azur. Cette rencontre lui paraît si lointaine, déjà perdue dans le passé, et il ne sait en préciser le souvenir. Pouvait-il imaginer qu'elle serait la dernière ? Il regarde son lit grand ouvert. Il s'y établit. Il s'y est attalé tout à l'heure, fort insouciant, libre, tandis que son oncle, peut-être, se mourait. Il relève la tête et fixe des yeux la fenêtre, où le ciel, d'un bleu léger, annonce presque le printemps. Paula est assise à côté de Fernand Dieulet. Elle ne se ronge plus, elle est délivrée de son fardeau. Comme ce voyage lui est moins pénible que l'aller. Derrière la vitre, elle voit défiler les rues, apparaître la Seine, ensuite encore des rues. « Chez vous ?» demande Ferdinand. « Il n'y a personne ?»« Non, il est tout seul, le malheureux. » Et en frémissant, s'appuie contre son voisin. Ferdinand songe à Albert. Ils se connaissaient depuis l'enfance et jamais, sauf pendant la guerre, ils étaient restés séparés longtemps. Il y a de cela une semaine, le jour de Noël, il l'a vu. Il va le revoir. Mais, bon Dieu, Albert ne lui serra pas la main. Il n'entendra plus dire « Ça marche, patron ?» Et il retient un sanglot. Le taxi s'arrête. « J'ai mon beau-frère qui est mort, » dit Ferdinand au chauffeur. « On va aller à la mairie. » Derrière Paula, il monte les marches d'un perron. Il ôte sa casquette, pénètre dans un couloir. « C'est là-haut, » chuchote Paula. Il incline la tête, bute contre la première marche, monte péniblement en se mordant les lèvres, et sur le palier, devant la porte de la chambre, il s'arrête et pose la main sur le bouton. Il n'entend rien que le battement de son cœur. Les paupières closes, il appelle. Albert, tourne le bouton, puis ouvre les yeux. Il le voit qui semble sommeiller au bord d'un grand lit. Gaston Dieulet se poste en face du bar du Télégraphe. Malgré son enseigne, c'est une boutique qui a l'aspect simple et pas moderne d'un bistrot. Mais il y retrouve des souvenirs, tous heureux. Fini, le malheur est venu. Un des leurs ne franchira plus ce seuil. Il traverse la rue, pousse la porte, entre. Sa mère est seule. « Oh, Gaston, quelle perte !» Il l'embrasse en disant « Voyons, calme-toi, maman. Maman !» Et ne sait rien ajouter. Sa mère ne l'écoute pas, du reste. C'est une femme humble, vaillante, têtue, qu'on ne peut guère conseiller ni consoler. Elle bredouille, répète très bas certaines phrases. Et moi, qui me suis disputé avec lui il y a 15 jours, je ne le laisserai pas, oh non, c'est trop injuste de mourir comme lui, il pouvait encore être si heureux. Gaston voudrait parler, mais les mots, tous lui paraissent vides, usés, et sa gorge se serre. Il souhaite pouvoir pleurer. Enfin, simplement, il dit, « Pauvre Albert !» « Oui, soupire Lucienne, il aura mal commencé 1933. Mais de quoi est-il mort ? On ne sait pas. Hier, comme les autres années, il devait venir déjeuner, quand le matin même j'ai reçu un mot. Tu l'as ? Oh, il écrivait dedans qu'il se sentait mal et qu'il resterait couché. Il ne me disait pas où. Potagnier était là. Après, je l'ai déchiré, son mot. Gaston, est-ce que tu crois que cette femme... Tu crois qu'elle serait une intrigante? Ce n'est pas naturel de mourir comme il est mort en plein sommeil, un fort gaillard. Elle ne l'a pas entendu souffrir, rien qu'elle nous a raconté. Et quand elle s'est réveillée, le corps était encore chaud. Oui, je l'ai aperçu. Mais non, jamais je l'avais vue avec Albert. Tu sais, c'est une Italienne, brune. Soudain, la porte claque et une femme entre. La Julie. Patronne, c'est ivré, ce qu'on m'a appris? Quoi? Oui, oui, je viens de perdre un de mes frères. Lequel je le connaissais? Albert, le célibataire. Celui qui venait nous voir avec son petit fox. Oh, Julie, laissez-moi ce matin, je n'ai plus le cœur à rien. Cependant, après un moment, Lucienne passe dans l'arrière-boutique et en revient avec une serpillière que Gaston veut lui arracher des mains. Elle le repousse. Je ne pense pas si je travaille. Elle s'agenouille, par-ci, par-là, donne un coup de serpillière, sans cesser de marmonner. Il devait avoir ses papiers sur lui, son testament peut-être, puisque cette femme a trouvé notre adresse, vois-tu, Gaston. Il la gardait, comme s'il avait eu le pressentiment. Je veux que ton père lui enlève sa bague. Il a dessus un brillant de 6 000. Et sa montre et tout, hein, à moins que cette étrangère... Enfin, elle s'assied. Du coin de son tablier, elle essuie son visage, et puis, les mains crispées sur sa poitrine, elle regarde fixement devant elle. Où est assis son fils en ce moment? Eh bien, Albert s'est assis le jour de Noël. Lui et Ferdinand, ils bavardaient, leur conversation roulait sur le commerce qui va de mal en pis, et Albert se réjouissait d'avoir vendu à temps sa chemiserie. Ensuite, ils ont piqué un somme, mais elle les en a tirés brusquement. « Je passe un joyeux Noël avec vous », a-t-elle dit. Alors Albert s'est levé, il avait rendez-vous à Vaugirard, chez son Italienne. Il est parti en promettant de venir le jour de l'an. Jamais plus elle ne le reverra vivant, son frère. « Gaston, je ne peux pas croire que c'est vrai !» Elle secoue la tête, grimace, enfouit son visage dans ses mains et sanglote désespérément. Dans le noir, c'est Albert qu'elle voit. Tout gosse, adolescent, soldat, commerçant. Elle qui ne rumine jamais, plus que dans le commerce on a mieux à faire. Elle se penche sur son passé. Ni le présent ni l'avenir n'existent plus. Ah, seulement ce passé, au fond duquel elle retrouve son frère, des images de lui, des gestes familiers, ses paroles, son sourire. Alors elle rouvre les yeux et se redresse, elle regarde la porte comme s'il allait l'ouvrir et s'il criait « Bonjour, ma frangine !» Albert avait quel âge ? Demande Gaston. « Au mois de novembre, il m'a dit, je viens d'avoir 52. Je ne vivrai pas autant que j'ai vécu. 52. Oh, moi j'ai 55. Le gros Édouard, 58. Victor, c'est le plus jeune, lui, 47. Oh, quand le gros Édouard saura, il va être fou. » À l'angle de la rue de Romainville et de la rue de Belleville se trouve le tabac. La Julie y entre. Au comptoir, ici, même les jours qui ne sont pas jours de marché, il y a du monde. Le mécano qui a son petit atelier sur la place, le marchand de couleurs dont la boutique bariolée touche au mur du cimetière, et le cordonnier, et le boucher, et le coiffeur, de bons vivants. La Julie va tantôt chez l'un, tantôt chez l'autre, faire ménage, comme chez la mère d'Yolet. Toutes sont là, justement. Elle leur annoncera la nouvelle. C'est Botanier qui la lui a apprise. Elle commande un vin blanc, et puis elle commence. La mère d'Yolet vient de perdre son frère. Oui, comme je vous le dis. Seulement, on ne sait pas de quoi il est mort, il n'est pas mort chez lui. Oh, c'est le gros ! Demande le patron. Le gros, voilà un fameux client. Ouais, celui qui avait le fox. Albert, dit le coiffeur, eh ben, c'est un homme qui, avec son teint jaune, devrait couvrir une maladie de foie, explique le boucher. Oh, je sais pas de quoi il est mort, répète la Julie, mystère. Enfin, il n'a pas dû souffrir longtemps, déclare le patron. Parce que pour le jeu de Noël, sur le 4 heures, il est venu avec Ferdinand Diolet boire un verre, et il portait comme vous et moi. « Ah, c'était lui qui avait la pacard ?» demanda le cordonnier. « Non, c'est le gros, » réplique le mécano. « Mais il avait la nouvelle Renault, lui. Pontalier, qui l'accompagnait souvent à la pêche, m'a raconté que ce type-là était presque millionnaire. » « Oui, assure le patron, le père et la mère de Hollet sont des vénards. Ah, voilà un taxi qui s'arrête devant leur porte, devant le bar, crie Julie. » Gaston d'Hollet se répète avec souci certaines phrases de sa mère. « Quand on ne m'entendra plus, c'est que je serai près de ma fin. Faut toujours que je me remue. Et à présent, elle ne parle pas, elle ne bouge pas. » Un chauffeur de taxi entre. Un papier pour vous, annonce-t-il. Et j'ai aussi un paquet. Gaston lit le papier. Oh, papa est maintenant à la mairie. Il ne dit rien, Albert ? Qu'est-ce que tu veux qu'ils nous disent ?»« Je sais pas, » réplique Lucienne. Et elle balbutie, « Bon, qui n'est pas mort ?» Quand le chauffeur est sorti, elle pose sur une table le paquet qu'elle ouvre avec une ardeur fébrile. « Ah, ce sont ses affaires, Gaston !» Une flanelle épaisse, un caleçon rayé, une chemise sur laquelle elle lit A.S., ses initiales qu'il avait demandé de broder en bleu. Une flanelle épaisse, un caleçon rayé, une chemise sur laquelle elle lit A.S., ses initiales qu'il lui avait demandé de broder en bleu. Elle retourne ce linge déjà défraîchi, taché, grisâtre, et elle y retrouve les dernières traces vivantes de son frère, son odeur, un peu la forme de son corps, comme sa chaleur. Ensuite, elle plie soigneusement le par-dessus, puis elle prend le gilet, le veston, le pantalon. C'est un costume tout neuf, dont cependant elle avait dû recoudre les boutons. Elle examine la doublure du veston. Son frère transpirait, c'était mauvais signe. Elle fouille les poches, qui toutes sont vides, et ça l'étonne. Lorsqu'il avait étreigné ce costume, Albert lui avait dit en riant, « Je serai beau pour les fêtes, si je ne vous ramène pas une conquête. » Et voilà, ses vêtements vides, bêtes, déformées, inutiles, qu'elle palpe, caresse, réchauffe. Gaston observe son pieux manège. Peut pas croire non plus qu'il est mort. Moi, je le crois maintenant, murmure-t-elle, la main crispée sur un morceau d'étoffe. Ferdinand Dieulet reste planté au bord du trottoir, jusqu'à ce que Paola ait disparu. On le bouscule, il se sent comme perdu dans ce quartier. Allons, à Vaugirard ou à Belleville, on court, on travaille, on crève. Hep, chauffeur ! Et il monte dans un taxi. Au bureau des décès, les employés sont tatillons comme les employés de poste. Ils exigent une déclaration en règle. Or, Albert n'est pas mort chez lui, mais chez Paola. Paola, comment ? Il m'en avait jamais parlé. Quel cachotier ! Eh bien, pour cette femme, voilà un sale coup. À la mairie, elle tremblait de peur, comme si on allait l'arrêter. On ne l'accuse pas, pourtant. C'est une personne qui semble aisée, qui a même sa maison à Paris. Il revoit la jolie façade aux briques de couleur, l'antichambre avec des objets bizarres sur les murs, et ailleurs des tableaux, des tentures, tant de bibelots qu'on se serait cru chez une demi-mondaine. Quoique ça n'était pas un homme à entretenir, une cocotte, Albert. Paola était sa maîtresse, cependant, ils couchaient ensemble. Se rappelle son beau-frère, étendu dans ce lit à sculpture, et quelle surprise il a ressenti d'en découvrir la vie privée. Il n'a pas le désir de la connaître mieux, tant il garde sa découverte une impression accablante et trouble. Albert, sur son lit de mort, il rejette le souvenir de son esprit. Voyons, Lucienne, qu'est-ce qu'elle fait ? Quand il l'a quittée, elle s'agitait comme une démente. Gaston lui tient compagnie. Bon, rien à craindre. Il est passé au domicile de Victor Séger et a pris le concierge de l'expédier une dépêche. Albert décédé. Il s'agit présentement de téléphoner au gros Édouard, qui est à Marseille, chez des amis. Le gros, lui, n'a pas laissé son adresse, mais peut-être que Gonin ou Riboche la connaissent. « Sacré bon Dieu » grogne-t-il. « Faut que ça arrive alors que je suis seul. Et ce soir, comment je me débrouillerai si j'ai des clients autant qu'hier ? Et si je ne trouve pas l'adresse d'Edouard ? Quand le gros rentrera à Paris, plus de frangins, oh, quelle histoire ! Même s'il revient volontairement, C'est lui, Ferdinand, qui devra s'occuper des formalités, arranger tout. Ah, les responsabilités lui tombent sur le dos, comme si la nouvelle année les tenait en réserve. Il ricane, parce que la veille, des clients lui souhaitaient la bonne année heureuse juteuse. Il renverse la tête sur la paroi capitonnée, ferme les paupières, et voudrait ne pas penser, ne plus penser à rien. Aujourd'hui, c'est 11 heures lorsque Pontanier arrive au bar du télégraphe. « Je vous sers votre apéro ?» propose Gaston. « Non, répondit-il d'une voix morne. « Alors, patronne, ben, on attend le retour de mon mari. »« Moi, reprend Pontanier, ça m'a fichu un coup ce matin. J'ai pas eu le cœur à l'ouvrage. Dimanche, on devra peut-être aller à la pêche, lui, le patron et moi. Le temps commence à se remettre au beau. Oh, je t'en fous. Il ne prendra plus dans sa Renault, nous et notre travail, à tirail. Mais je vais le faire revenir ici, déclare Lucienne. Oh, mais pardon, ça se passera pas comme ça. Vous le ramènera pas dans un taxi. Vous pensez qu'il y aura une enquête? Je le disais à Gaston. Oh, sûrement une autopsie, et dans ce cas, on envoie le corps à la morgue. Oh, jamais ! S'écria Lucienne. Pontanier hausse les épaules. Il s'en va. Mais il s'arrête brusquement sur le seuil, se recule, et c'est Ferdinand qui entre dans sa boutique, sans regarder ni saluer, en demandant « Lucienne, on t'a remis ses affaires ?»« Elles sont dans la chambre. » « Alors, il est mort ?»« Eh oui, soupire Ferdinand, c'est une chose inimaginable. » Et le médecin de l'état civil a dit quoi ?« Il viendra que tantôt, on va avoir des ennuis, Lucienne. Toi, Gaston, faudra que tu m'accompagnes. » Il pria Pontanier de garder un instant la boutique et il commande à sa femme et à son fils de le suivre. Dans la chambre, la porte fermée, il tire de sa poche une bague ornée d'un gros brillant, une montre en or et sa chaîne. J'ai pas trouvé son épingle de cravate. Cette femme aura mis la main dessus, grogne Lucienne. Après un silence, elle ajoute la gorge serrée. « Comment était-il ?»« Oh, croirait qu'il dort. Je n'ai pas eu à lui fermer les yeux, à lui mettre une mentonnière. Oh, si tu le voyais !»« Oh, mais je ne veux pas. Le dernier souvenir que je garderai de lui, ce sera quand il nous a quittés, à Noël. » Ferdinand ouvre un portefeuille, il en sort une carte verte, la carte de combattant, une carte d'officier de réserve, une carte d'électeur, puis un papier qu'il présente gravement. Son testament. On le lira en présence de mes frères. Il ne manque rien, tu es sûr? Bon, il avait emporté que ses pantoufles et sa chemise de nuit. Ils conciliaient ensemble, couchaient ensemble pour la première fois. Qu'elle raconte! De nouveau, Ferdinand Dulay roule accompagné de son fils. Il va chez Riberoche, un ami du grand Édouard Singer. C'est midi et à chaque carrefour, le taxi s'arrête. Fernand et Gaston demeurent silencieux, raides, repliés sur eux-mêmes, perdus dans leurs pensées. Ils vivent, oui, mais il leur semble qu'ils ne pourraient faire un geste, courir, crier, comme tous ces gens. Tous, ils ont leurs soucis, leurs ambitions, leurs désirs, leurs amours, qui les poussent, alors que Ferdinand et Gaston, s'ils bougent, disent un mot, c'est pour évoquer Albert. C'est la mort qui leur souffle presque chaque parole, qui commande à chacun de leurs gestes, elle qui a pris pour s'y vivre la forme d'Albert. Ils sont arrivés dans son ancien quartier, boulevard Barbès. Gaston paye le chauffeur. Ferdinand s'élance sur la chaussée et un autobus le frôle. Il a l'air d'un fou, pense Gaston. Ce matin, Ferdinand ne s'est pas lavé, à peine s'il a pris le temps de s'habiller. Le col de son chandail, relevé et replié, lui fait autour du cou une couronne brune sur laquelle semble poser, petite, blanche, vive, une tête où les yeux seuls vivent. Son imperméable gris flotte sur le corps. Il marche courbé, entraînant des pieds comme un vieux. Gaston éprouve une peine sourde. Son père, il le voit, incapable maintenant de supporter de rudes épreuves, fragile, usé. « Oh, c'était dans la maison d'un charcutier, » répète Ferdinand. « Tu sais plus quel numéro ?»« Non, le charcutier. Oh, en voilà un !» Il pénètre dans son immeuble cossu. C'est là, enfin, au troisième. Une femme leur ouvre la porte. Ferdinand se présente, puis... c'était pour demander un renseignement à Henri Baroche. Oh, il vient de sortir, mais je peux sans doute vous répondre, je suis sa belle-sœur. L'adresse du gros Édouard à Marseille, que je vous explique, son frère Albert est mort. Elle ouvre le tiroir du buffet, n'y trouve pas certains carnets, et le cherche. Oh, nous, s'exclame Ferdinand. Faut qu'on reparte. Vous avez retiré Riberoche. Gonin habite le même quartier. Son appartement donne sur un square. Voici, au cinquième, et une bonne grosse bourgeoise paraît sur le seuil. Qu'est-ce qu'il y a, monsieur Dieulet? Ferdinand baisse la voix. Albert est mort ce matin. « Votre mari connaît l'adresse du gros Édouard? Sinon, j'envoie mon fils à Marseille. »« Oui, entrez donc, on allait déjeuner, vous riez déjà à table. » Corin se lève et dit d'un ton rogue. « Eh ben quoi ?»« Albert est mort, mon grand. »« Oh, merde !» Et il pose sa serviette. Ferdinand lui raconte tout. Il est seul, quel fichu des veines. Il faut que le drôle Édouard rentre à Paris, illico. C'est la vie de Gorin. Oh, le gros, un vieil ami, Édouard. Ils n'ont pas de secret l'un pour l'autre. Il tire de sa poche un calepin qu'il feuillette. L'adresse est là, avec le numéro du téléphone. Il prend un crayon, un papier, tandis que derrière lui se lentient Ferdinand, intimidé par la fâche richesse des meubles, des tentures, des tableaux. « Voilà !» dit Gorin en hochant vers la table. « Prévenez-moi dès qu'il aura du nouveau. »« C'est ça, merci !» répond Ferdinand, qui remet sa casquette. Puis il tend le papier à Gaston. « Tu vas téléphoner !» Paul a entendu sonner midi, une heure, et elle est toujours allongée sur ce divan du petit salon, encore vêtue de son manteau. Elle a ressassé de lointains souvenirs, puis sa pensée s'est fixée sur ce mois de décembre 1932. Au début de ce mois, elle a connu Albert. Son chéri, il est au-dessus d'elle, seul dans le grand lit où il couchait pour la première fois, car jamais, non, il n'avait passé la nuit chez elle. C'était si récent leur rencontre. Avec quelle violence ils avaient été poussés l'un vers l'autre. Le coup de foudre, bien qu'il eût 52 ans et elle 40. Mais ça pouvait aller comme âge, et puis l'un et l'autre avaient leurs aises, enfin, tout convenait. Mon Dieu, gémit-elle, de ses espérances, de ses joies, de son bonheur, pour témoigner, il ne reste rien, si un mort. Subitement, elle se lève, marche, chancelle, s'appuie contre la rampe de l'escalier. Là-haut, tout à l'heure on viendra. Le médecin de l'état civil, la famille, qui encore? Peut-être le commissaire. La délivrer, Paola, tout au moins du cadavre qu'elle ne sente pas s'installer ici. Elle se rappelle son affreux réveil. Ah, c'est! Elle fixe les yeux des objets. Tous sont à leur place, comme avant Albert. Elle pénètre craintivement dans la salle à manger, touche chaque meuble, regarde plus joli bibelot, son argenterie qui brille au fond de la vitrine, Louis XVI. Il faut qu'elle chasse Albert de son esprit, qu'elle charge de la villa. Elle s'assied pendant la fenêtre dans sa bergère. Voilà, elle retourne sur le passé en novembre. Elle est triste de vivre seule depuis 2 ans, mais c'est quand même une existence supportable. « Oh !» balbutie-t-elle. « Si j'avais su comme on annonce !» Elle aperçoit Madame Parot, parfait, qui traverse la rue. C'est une voisine, sa confidente, et elle couvre pour lui ouvrir la porte. Dans ce bureau de poste, Gaston Dieulet, appuyé contre un mur, se répète la phrase de sa mère. « Le gros Édouard va être fou, Élise aussi !» Il regarde la pendule et voudrait en arrêter les aiguilles. Mais trop tard, le numéro est donné. Avant 5 minutes, le gros Édouard, à son tour, sera frappé. Gaston connaît bien son oncle et sa tante. Hier, ils ont dû faire la foire avec leurs amis qui tiennent un hôtel dans cette avenue conduisant à la gare. Une avenue dont il a oublié le nom. En revanche, il la revoit, il s'y voit un peu comme s'il leur portait la nouvelle. Ils ne se doutent de rien, sont tranquilles, comme lui avant le coup de sonnette de son père. Et sans téléphone, sans télégraphe, ils continuent à vivre heureux. « À vous !» crie la téléphoniste. Il se précipite, son père le rejoint et ferme la porte de la cabine. Gaston décroche nerveusement le récepteur, Ferdinand l'écouteur. Ils entendent un grésillement. Ni l'un ni l'autre n'ont jamais téléphoné à une distance pareille. On peut... Et pourtant, il ne se croit pas que la voix du gros Édouard répondra. « Ils sont peut-être partis en vadrouille !» souffle Ferdinand. « Tais-toi. Allô, allô, l'hôtel moderne ? C'est de Paris, je voudrais parler à Monsieur Singer. » Gaston entend qu'on raccroche. L'homme s'en va, lui aussi, instrument inconscient et cruel. Il cherche le gros Édouard. Il le trouve, lui annonce qu'on le demande de Paris. Et le gros Édouard, ainsi qu'Élise peut-être, cesse de boire son apéritif ou cesse de manger. Il accompagne l'homme, un peu inquiet déjà, mais il ne sait pas, ne sait rien encore. S'il songe à Albert, c'est comme un vivant, un frère, que bientôt il reverra. Une voix sourde, enrouée, qui traverse mal l'espace. « C'est toi, Édouard ?» répond Gaston. « Ton neveu, ici. Il répète lentement ces mots, tandis qu'il compte en pensée. Son père, sa mère, lui, Victor qui a reçu sa dépêche, le gros Édouard, cinq déjà autour de leur mort. Ils sont cinq enfermés dans cette cabine. Oh, je te comprends à présent. Mais Albert a eu... Il a eu une crise cardiaque. Il entend un son rauque, quelque chose comme « Il est pas mort ?» Et il lève les yeux vers son père tout blême, puis il reprend avec effort. « Si, il est mort ce matin, faut que tu rentres !» Il parle encore, mais le gros Édouard n'en doute plus. Il dit « Mon frangin est mort !» Ensuite, ni son ni grésillement, rien d'autre que le silence, celui de la mort. Puis ça recommence. Une voix cassée, douloureuse, lointaine. « Je rentre par le premier train !» Et Gaston raccroche. « Tu as fini ?» demande Ferdinand. « Peut-être que l'autre s'est jeté sur l'appareil. » Gaston reprend le récepteur. Aucun bruit. Le gros Édouard sait. Il est parti annoncer la nouvelle à Élise. Il sort de la cabine et la téléphoniste dit en souriant « C'est 18 francs !» Gaston paye. Il voit des gens se presser devant des guichets, circuler. Il semble qu'il vient, lui, de quitter un cachot où il a vécu une espèce de rêve. « Tu as entendu, papa ?»« Mal !» Oui, il faut envoyer un télégramme. Il prend un formulaire, écrit, rature et enfin, Albert mort. Impossible de trouver d'autres mots que ces deux-là. Ce qui était encore leur secret, le monde va l'apprendre. Des hommes se trouveront eux aussi en présence d'un mort qui fut des leurs. Un employé lit le télégramme, sans que bouge une ligne de son visage. Gaston en attend un regard, un geste, qui le fit compagnon une seconde, parce que la mort est là. Eux, ces inconnus affairés, ils auront tout leur tour, tous. Brusquement, on le saisit par le bras, on l'entraîne. Le médecin de l'état civil doit venir à 2 heures. Dit Ferdinand. Lucienne Diollet est assise près du poêle. À ses pieds, en boule, Nono dort. Tout à l'heure, il lui a fallu servir les clients, le sourire et, plus pénible, leur donner des explications sur la mort de son frère. Enfin, ils sont partis. Mais rue de Belleville, toujours le va-et-vient, un tintamarre, qui commence à 6 heures pour ne cesser qu'à minuit. Albert, plus jamais, reviendra au bar du télégraphe avec son bijou. C'était un petit fox, fouinard et rageur, qui faisait en compagnie de Nono des parties folles. Il pissait partout, jusque dans la chambre, car Albert n'avait pas su le dresser. Bijou, lui aussi, est mort, sous une auto. Lucienne se penche. Un nouveau reste, et elle caresse son chien. Oui, des voisins sont venus aux nouvelles. Albert était connu dans le quartier. Il allait boire un verre ici, un verre là. Il achetait un gâteau chez le boulanger, prenait son essence chez le marchand de couleurs, et au besoin, le mécano lui réparait sa voiture. Il avait été commerçant, il savait faire travailler ses confrères. De plus, il était comme un enfant du quartier. Quand leur père était mort, la naissance de Victor avait coûté la vie à la mère. Leur grand-mère maternelle, qui tenait rue Azot une fruiterie buvette, les avait pris chez elle, tandis que leur grande sœur, Marthe, filait toute fière de ses 18 ans. Donc, c'était pas bien loin du bord du télégraphe que leur jeunesse s'était écoulée. Aujourd'hui, Victor et Lucienne habitaient encore le quartier où le gros Édouard revenait souvent. Ce pauvre Albert aussi. Il n'avait pas cessé d'aimer les vieux, Belleville. Parfois, Lucienne monte prendre l'air rue du télégraphe. Elle s'assied sur un banc, puis entre au cimetière, un coin pas triste. Campagnard, une herbe folle recouvre des tombes. Autrefois, la grand-mère y menait déjà en promenade, parce que son mari avait été enterré. Lucienne, qui avait seulement 3 ans de plus qu'Albert, s'occupait de lui comme une grande sœur, le débarbouillait, et malgré rebuffades et coups de pied, le conduisait à l'école, où il ne voulait rien apprendre. Cependant, plus tard, il a attrapé le temps perdu, si bien qu'on a pris comme commis aux contributions directes. Puis il est parti faire ses 3 ans. À son retour, il a trouvé une place occupée. Mais il avait changé. Il ne voulait pas rester chez grand-mère. Il était déjà plein d'ambition. Lucienne revoit la chambre mansardée qu'il avait louée au 6e boulevard Barbès. Il y vivait peu. Il avait déniché une situation de représentant. Son rêve de toujours, le commerce. Et il parcourait la France pour le compte d'une maison qui vendait les produits à fourrier des poils et des cuivres. Lorsqu'il rentrait pour quelques jours à Paris, Lucienne montait lui retaper son ménage. Il était déjà taciturne, un peu ours. Aussi elle lui conseillait de se marier. Et il lui répondait invariablement « Plus tard, quand j'aurai de quoi. » Et il lui donnait des boîtes de pâtes. Oméga. Et pour son petit garçon, des calepins, comme il les en ferait à la clientèle. Lucienne songe rarement à leur passé. Maintenant, elle se penche dessus. Il foule avec un désir obstiné et douloureux. Albert, le voici encore, en 1914, quand il est parti pour rejoindre son dépôt. À chaque permission, il revenait chez elle. Maréchal des logis, sous-lieutenant, lieutenant, et l'armistice était arrivé, alors qu'il allait passer capitaine. Après sa démobilisation, il s'était associé au gros Édouard qui venait d'acheter un grand hôtel avenue de Clichy. Et 2 ans plus tard, il se mettait enfin à son compte. Pauvre Albert, lui qui a tellement travaillé, il n'a pas eu le temps de récolter. Il y a 15 ans, il lui confiait d'un ton plein d'assurance ses beaux projets de rentier. Cette petite rue étroite, bordée de villas laides et bourgeoises, derrière son père, Gaston Dieulet, s'y aventure. Dans cette maison triste, avec une grille où grimpe du lierre, Albert obscurément est venu mourir. À son tour, Gaston y pénétrera. Il n'a pu jusqu'à présent que suivre son père, l'écouter, à travers lui, imaginer la fin d'Albert. Son cœur bat. L'émotion que Ferdinand a dû éprouver ce matin, il la ressent. Une femme leur ouvre la porte. La maîtresse de son oncle, cette Paola, qui par quel geste, quelle parole, seule est liée aux morts. Et elle murmure, « Vous voulez voir ? Veux-tu le revoir ?» demande Ferdinand. À la suite de son père, Gaston monte lentement, avec un regard furtif sur les murs, comme s'il voulait pénétrer quelque secret. Son père a poussé la porte, enfin, il va savoir. Mais il s'arrête à mi-chemin de l'escalier, pose la main sur la rampe, et par la porte ouverte, son regard se glisse, tombe sur le lit. Il touche au terme de ce long matin d'épreuve, de démarche, d'angoisse, au but. Sur l'oreiller, la tête d'Albert repose, sombre, immobile, calme. Jamais Gaston n'a vu dormir son oncle. Jamais il ne l'a vu dans l'intimité de la vie. Il va le surprendre, désarmé, abandonné. Alors il monte les dernières marches, hésite un instant sur le palier, entre. Il découvre d'autres meubles que ce grand lit, des tentures, des fauteuils, des objets qui semblent n'avoir ni forme ni couleur, disposés là comme de silencieux témoins au service du mort. Entre le lit et l'armoire à glace, une sorte de couloir où Gaston s'avance. Un pas encore, il retrouve Albert. 6 mois qu'ils se sont vus. C'est à présent une autre rencontre. Et entre eux, c'était un troisième personnage, invisible, tenace, envahissant. Un autre débat qui commence. Une nouvelle année, un nouvel avenir. Gaston debout. Albert étendu. Gaston, la couleur de la vie sur son visage, sur ses lèvres, la force de vie dans sa poitrine et dans ses gestes, vivant. Quoique en lui déjà, quelle usure, quelles atteintes. Il ressemble à Albert, dit-on. Et il pense, tu reposes comme je reposais ce matin. Mais ton attitude, les lignes de ton corps changent, se gonflent. Dis, quelle est cette expérience neuve qui est la tienne? Quelle découverte entreprends-tu? Il se baisse et légèrement tire le drap. Ce n'est pas toi, mon oncle, que j'approche enfin. Durant ta vie, tu n'as rien livré de toi-même, je ne connaissais pas plus ton corps que ton âme. Et maintenant, malgré ma ferveur, que puis-je saisir d'humain? C'est la mort dont mon regard s'empare, elle qui creuse entre nous un espace infranchissable. Gaston appelle à l'aide ses souvenirs. Il faut qu'il emplisse cette dépouille, pour qu'il y retrouve son oncle, Albert. Oh, il lui faut s'en rappeler, le regard, le maintien, les gestes, les manies. Recréer péniblement un être de chair, lui redonner un souffle, une voix, un nom. Que son affection et sa peine provoquent un miracle. Et soudain, il lui paraît que la poitrine de son oncle se soulève, qu'il sort enfin d'un lourd sommeil, qu'il va dire, avec ce sourire un peu forcé et grave qui est le sien, « Oh, te voilà, mon neveu !» Cette matinée n'aura été pour eux tous qu'un affreux rêve. Une espérance insensée s'est emparée de Gaston, puis il abandonne. Son oncle n'a pas bougé, non. Il n'aura plus d'autre attitude, le corps comme pétrifié. De ses lèvres ne réagira plus un son. Sa dernière parole, quelle fut-elle? Sa dernière pensée d'homme vivant? Oui, s'il a succombé en plein sommeil, son rêve, son dernier rêve terrestre. Allons, souffle Ferdinand. Ça ne sert à rien de rester. Albert est sur une terre étrangère. Avec son corps, il les abandonne au passé. Mais son avenir, songe Gaston, son avenir. Un vertige le prend, il chancelle, Il se laisse entraîner dans la salle à manger. Madame Parfait et Paul sont assises et Ferdinand les présente et leur présente Gaston. Oh, mais c'est tout le portrait de son oncle, dit Paola. Lentement, par un après-midi si doux que c'est à croire que voilà déjà le printemps, Gaulin descend vers la place Clichy. Un peu soucieux d'avoir mal digéré, sacré Ferdinand Dielet, qui sans crier gare vous annonce une mort. Et en arrivant à la brasserie des sports, il boira une vieille fine. Gorin lorgne de jolies passantes. Il en suit une, elle trottine sur le pont Caulaincourt. Dessous le pont s'alignent les tombes du cimetière du Nord, certaines monumentales, mais pas réjouissante non plus. Gorin songe à Albert, à ses obsèques auxquelles il devra assister, sinon le gros Édouard se fâchera. Il l'enterrera à Saint-Ouen. Quelle corvée! Alors, bon, la petite qu'il filait a disparu. Il arrive avenue de Clichy à la brasserie des sports, une chouette établissement. Il y a sa table dans un coin près de la devanture, et en sous le rideau, il peut faire le voyeur, bien observer le manège des femmes qui raccrochent sur le trottoir. Plusieurs viennent ici au lavabo retaper leur beauté, et parfois il en invite une à prendre l'apéritif. Le patron lui serre la main. Je vous la souhaite bonne et heureuse. « Fallait me souhaiter ça plus tôt, grogne-t-il. Je la commence mal avec une tuile l'année. Le gros Édouard a perdu son frangin. »« Ah, monsieur Albert Singer !» s'écrie le garçon qui rapporte une fine. « Bon, c'est pas trop de quoi il est mort, on l'a trouvé chez une poule. »« Peut-être qu'une veine lui a éclaté en faisant l'amour, hasarde le garçon. Ou la poule en question en voulait assez sous, ajouta le patron. Gorin lape son verre de fine. Puis, Albert, oh, c'était pas un bavard comme son frangin. Il faisait tout en douce. Il y en avait un bon sac, le gros Édouard. Il va hériter. Lucienne traverse rapidement la rue et entre au tabac. On l'appelle au téléphone. Qui? Elle s'imagine encore une catastrophe, d'autres ennuis. Elle s'enferme dans la cabine, saisit le récepteur et crie « Allô !» Mon Dieu, pourvu que Ferdinand... Ah, on parle. Ah, la voix de son frère. Elle se penche davantage, sa bouche collée contre l'appareil. Le gros Édouard est-il arrivé? Non, non, elle perd la tête et il lui téléphone de Marseille. Il demande des délais car Gaston se raccrochait trop vite. Il demande des détails. Oh, maintenant ils sont près du corps, explique-t-elle, et j'attends Victor d'une minute à l'autre. Tu rentres quand? Demain matin. Quoi, Élise est mourante, souffrante, dis-tu? Un autobus passe, elle n'entend plus. Si son frère veut s'occuper de la cérémonie, il veut qu'Albert repose dans son caveau. « Fais comme ça te plaira, » répond-elle. Il cause encore un moment, puis elle raccroche. Mais demeure dans la cabine songeuse. Au moment de la mort de leur grand-mère, voici bientôt 10 ans, Édouard a acheté à Saint-Ouen une concession. qu'il mette Albert dans son caveau. Bien, il lui restera une place pour sa femme, une pour lui. Bah, murmura-t-elle, on peut me mettre à Pantin, je m'en fous. Au milieu d'un groupe, la patronne du tabac pérore. Lucienne voudrait ne plus parler à personne. Ça lui plaît guère d'attirer sur elle l'attention du quartier. À une question que lui pose la patronne, elle répond d'une voix impatiente. « Ben non, c'est pas plus que vous. J'attends que mon mari rentre. » Et elle se sauve. Avenue de Clichy, près de la place. « Yvette, t'as déjà fait un type ? Dis, tu sais pas ce que Gorin vient de m'apprendre ? Le gros Édouard, son frangin. Ben, je le connaissais pas, ma petite Ida. On t'a rien perdu. Ce mec-là ne le lâchait pas facilement. Moi, c'est Gonin qui me l'avait présenté. Il tenait dans le temps la grande chemiserie, enfin de la brasserie des sports. Oui, alors ? Ida décrocha une œillade à un homme et lui emboîte le pas. « Alors quoi ?» répète Yvette. Ida se retourne vivement. « Ben, il est mort » lance-t-elle au milieu de la rumeur de l'avenue. Chez Paola, ils sont quatre assis devant la fenêtre, dans l'attente de la visite du médecin des morts. Ils ont échangé des phrases banales pour cacher leur gêne et aussi pour essayer d'oublier. Pourtant, malgré eux, ils ont reparlé de ce pauvre Albert. D'abord d'une façon distraite, ensuite avec application, comme s'ils cherchaient ensemble à le faire revivre. « Oui, affirme Ferdinand, c'était pas un garçon aventureux, un vrai père tranquille qui ne s'occupait de personne. Il venait souvent chez nous, car sa famille... »« C'était sacré, interrompit Paola, il m'en parlait. » « Tenez, je connais votre vie, à vous tous.
Bon, »« Il était cependant peu communicatif. »«
Mais on s'est fait tout de suite des confidences, tous les deux. »« Je lui ai raconté mon existence, il m'a raconté la sienne. »« Et un jour, il m'a mené rue Ganneron, dans son appartement. »« Il m'a montré sa cantine d'officier, en m'expliquant que ses actes de propriété étaient dedans. » avec une partie de ses titres. Et bon, le lendemain, j'ai fait pareil. Alors il a déclaré, « Mais ma chérie, on mettra ensemble notre argent et on vivra heureux. On devait se marier dans 3 mois. Et on se laissait tout au dernier vivant, voyez-vous ?»
Ferdinand ne sait quoi répondre. Albert n'aura jamais soufflé mot de ce projet. Il ne voulait pas entendre parler mariage, et depuis 3 ans qu'il était séparé de la belle Georgette, on ne l'avait vu qu'une fois avec une femme. Mais pas celle-ci.
Et lorsqu'il a visité mon petit joli intérieur, continua Paula, il m'a confié, je sens que je m'y plairais.
Et il est venu y mourir.
Oh, si j'avais su. Vendredi, quand j'ai reçu son pneu, j'ai couru rue Ganneron. Pauvre chou, il était couché. Tu vas pas rester seul comme un chien, je lui ai demandé. Viens chez moi, je te soignerai. Et puisqu'on devait s'épouser, il s'est rhabillé et est parti sans prévenir la concierge. Et dans le taxi, il me répétait... Oh, ce ne sera rien.
Gaston écoute anxieusement. Ferdinand, qui a déjà entendu Paola conter son aventure, songe au gros Édouard, à Victor. Mais que font-ils ?
Et ensuite, demanda Gaston. Il s'est couché en arrivant. Il a dîné un peu, il a passé une nuit calme. Le lendemain, le médecin est venu, il lui a trouvé des taches sur la poitrine. C'était grave, car sur le foie, il devait avoir les mêmes. Il lui a pris sa pression artérielle et en partant,
Il m'a confié que votre oncle avait le cœur d'un enfant. Enfin, c'était pas mortel. Le samedi, Albert est resté au lit. Je lui avais acheté son information qu'il lisait chaque jour pour cause de ses titres. Et le tantôt, j'ai fait fonctionner ma TSF. Je me suis assise à côté de lui pour tricoter. Je vois que tu feras une femme d'intérieur, il me répétait. Tu sauras me dorloter. On écoutait la radio, il commençait à aimer beaucoup la musique. Il a écouté le discours d'un ministre et il m'a parlé politique. Là-dessus aussi, il se montrait bien sensé. On était d'accord sur tout. Et je pensais, oh, je vais maintenant être si heureuse. Ferdinand se dressa brusquement et se lève le rideau. Oh non, non, c'est pas lui, marmonne-t-il en se rassurant. Mais qu'est-ce qu'il fiche, ce médecin? Il ne va pas me causer des ennuis, demande Paola d'une voix mal assurée. À la mairie déjà. Oh oui, si j'avais su. Le pauvre homme, hier, il vivait encore à cette heure. Il me redisait, à présent, non, je ne pars plus de chez toi. Je donne congé de mon appartement. J'en ai assez d'y vivre seul. Je gagnerai mon auto dans ton quartier. Et au printemps, on la prendra pour filer au bois, ou plus loin, jusqu'à ton patelin, à Turin. Et moi, je lui répondais, je te ferai visiter l'Italie. Oh, c'était comme si on préparait notre voyage de noces. Il ne souffrirait pas, il ne souffrait vraiment pas, dit Gaston. À 6 heures, il a pris sa température. Il ne savait pas où placer le thermomètre, il avait 38. Il pouvait dîner. Il a mangé une tranche de jambon, 2 poireaux, un petit suisse. Et je lui ai dit, je vais me coucher tôt, hier j'ai mal dormi. Et j'ai posé sur la table de nuit un pot de citronnade, car la nuit il avait soif. À ce moment-là, il a eu un rot. Oh, ça me fait du bien, quand on rôde, c'est qu'on digère. Il se tenait sur le côté, comme vous l'avez vu, et lorsque j'ai été couché, il m'a expliqué, « Je ne t'embrasse pas, je ne peux pas bouger la tête, mais on se rattrapera. » C'est moi qui lui ai donné un baiser dans le cou. Oh, je ne vais plus le retrouver que mort. Mais durant la nuit, vous n'avez rien entendu, dit Gaston. Rien, vraiment rien, reprend Ferdinand. C'est curieux. Oh, j'ai dormi une seule traite jusqu'à 6 heures. Ce sont les miaulements de ma chatte qui m'ont éveillé. Peut-être que Lolotte a entendu quelque chose, elle. Je lui ai ouvert la porte de la chambre et je me suis recouché en pensant. J'ai de la chance. Albert, c'est un homme qui ne ronfle pas. Il devait être mort, hasarde Madame Parot. Ah, Paula, je crois que moi je serais devenue folle. Ben, j'ai repiqué un somme et puis je me suis réveillé tout à fait. J'étais en chemise de soie, serré contre lui, on avait chaud. J'ai glissé ma main sous sa chemise pour le caresser dans le dos et en même temps que je me retournais, je lui ai dit « Tu t'es payé une bonne nuit, mon coco !» Je me suis penché, je l'ai embrassé, mais c'était déjà froid, son visage. Il reposait comme à présent, demande Gaston. Non, non, la tête plus haute. Il change. Oh, si vous voulez en prendre une photo.